16h30 sur le 94 FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Canal B et Radio Boa. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Jardin Moderne à Rennes pour une émission spéciale. Nous nous retrouvons à l'occasion du vernissage de l'exposition sonore et photographique Notes de comptoir à découvrir au Jardin Moderne jusqu'au 19 décembre avant qu'elle ne parte s'installer dans d'autres lieux en Bretagne à partir de 2026. Vous nous écoutez en direct donc sur Canal B et Radio Boa. Radio Boa, c'est Radio Braise On Air, une radio associative régionale en Bretagne qui vous donne à entendre ses programmes, mais aussi ceux des 15 radios associatives et locales de toute la Bretagne. Et donc au micro aujourd'hui, tout naturellement, vous serez entre les mains de Clément de Radio Boa. Bonjour Clément.
Bonjour Nina, bonjour à toutes et à tous.
Et puis avec moi-même donc Nina de Canal B. Alors je viens de vous parler de ce titre Notes de comptoir, mais qu'est-ce qu'il veut dire vraiment Clément ?
Notes de comptoir, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on imagine derrière cet intitulé? Peut-être les notes laissées au patron du bar du coin, parce que Jérôme, il est sympa, tu peux repasser plus tard, payer ta note. Notes de comptoir, c'est aussi les notes prises lors de la commande. Ok, un DBK, un demi, je mets ça sur ta note, Justine. Mes notes de comptoir, ce sont aussi celles qu'on entend dans les enceintes vissées aux quatre coins du bistrot, les notes qu'un groupe diffusé sur Canal B, Radio Boa ou une autre radio du réseau Corlab, et oui, ça peut, car elles défrichent encore ces radios, faut pas croire, et c'est garanti sans algorithme. Notes de comptoir, ce sont aussi les notes des artistes et groupes locaux, nationaux, voire internationaux, programmés dans ces cafés-concerts, tiers-lieux, micro-lieux, hybrides, des lieux qui ouvrent des espaces de liberté d'expression pour les artistes qui cherchent à tourner, pas en rond, mais en Bretagne, ailleurs et en France, et même parfois à l'étranger. Mais il faut savoir que ces lieux sont aujourd'hui traversés par des interférences concrètes, les normes de bruit, les coûts en forte hausse, plus de dépenses, moins de recettes, la gentrification des quartiers populaires. Bref, elles sont nombreuses les interférences, mais ces lieux sont pourtant essentiels. Ce sont eux qui accueillent les premières notes, qui accompagnent les artistes dans leur parcours, leur quête de date. Ils participent au maintien de la diversité culturelle et sans eux, la musique en Bretagne et ailleurs perdrait une partie de sa vitalité artistique présente sur nos territoires. Alors c'est pour ça qu'une série de podcasts de 20 épisodes de 30 minutes, coproduites par les radios de la Corlab comme Canal B et Radio Boa, aujourd'hui représentées, leur est dédiée pour mieux comprendre donc, les enjeux qui les traversent, leurs inquiétudes, mais aussi toute la richesse, la créativité et l'énergie qu'ils déploient pour proposer une programmation culturelle au public dans leur ville ou commune.
Vous l'avez donc compris, Notes de comptoir, c'est une exposition photographique et sonore. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour en parler plus en détail avec nos invités. Nous avons avec nous Julien Pion, coordinateur de Supermab, l'espace de coopération pour les musiques actuelles en Bretagne, Liane Saint-Pierre du collectif Culture Barbare et Léa Sanzo d'Abin du Jeep Café Culture. On vous en dira un peu plus sur leur structure dans quelques instants et aussi sur les défis actuels et à venir pour les cafés-concerts et ce secteur en général. Et on parlera aussi de cette exposition photo donc en deuxième partie d'émission avec l'artiste photographe Sarah Chajari, alors que nous accueillerons également Sébastien, gérant du Marquis de Sade, un des lieux emblématiques de cette culture du café-concert à Rennes.
Et on finira en musique avec My Little Cabbage, un groupe de musique cajun de la région de Rennes. Jeanne Lemoine et Eric Martin nous présenteront au micro de Yann le groupe avant de rejoindre la scène pour une petite session live. Mais commençons tout de suite peut-être avec nos invités, donc Julien Pion de Supermab, Liane Saint-Pierre du collectif Culture Barbare et Léa Sanzo d'Abin du Jeep Café Culture. Alors peut-être un tour de table pour indiquer à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce que représentent peut-être vos structures. Bonjour à toutes et tous. Julien, peut-être pour commencer.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je coordonne une structure qui s'appelle Supermab, entre parenthèses, espace de coopération pour les musiques actuelles en Bretagne. J'ai longtemps cherché comment définir rapidement ce que pouvait être un réseau. Et en gros, ce que je peux dire, c'est que voilà, nous, on est un endroit où se fabriquent les coopérations à l'échelle de la région Bretagne, sur les musiques actuelles, mais au-delà. C'est-à-dire qu'on a une fonction qui est de créer du lien entre les gens, qui est d'informer, qui est de permettre de décrypter un peu le contexte parfois compliqué dans lequel on se trouve, et puis de mettre en place des réflexions, et notamment une qui s'appelle Micro, on va peut-être y revenir tout à l'heure, qui a pour but de fédérer à l'échelle de la région les porteurs de micro-projets, et beaucoup du coup, comme on les appelle, les micro-lieux, donc les personnes qui gèrent ou qui font vivre les cafés notamment ou les petits lieux. Donc voilà. Et puis on a aussi un rôle qui est de porter des paroles dans toute leur diversité, parce que voilà, c'est ça qui nous anime, c'est de préserver cette diversité hyper importante que constituent les musiques actuelles et le chant culturel au-delà, de porter ces paroles en direction de nos partenaires publics pour les informer, les alerter, les sensibiliser sur les problématiques, les soucis et les forces aussi, parce qu'elles sont énormes. Et voilà, et l'illustre de manière assez emblématique le fait que individuellement c'est des lieux qui effectivement ont parfois pas mal de soucis, mais à eux tous ils forment une mosaïque de lieux culturels qui est hyper importante pour beaucoup de choses.
Merci Julien pour ces précisions, et on manque pas de le dire, on l'a pas dit tout à l'heure en introduction, c'est un loupé, mais vous avez fait partie en tant que partenaire éditoriaux collectif Culture Barbare et Supermab, donc de la série Notes de comptoir. Liane, peut-être une présentation du collectif?
Oui, alors le collectif est un collectif qui représente les cafés et les clubs culturels. On parle plus de café-concert, mais bien de café culturel. Donc moi, mon travail, c'est de militer le droit à la fête et le droit à l'accessibilité de la culture. Mon travail, c'est aussi de faire en sorte que ces lieux ne soient pas vus comme des lieux de débit de boissons, mais plutôt des lieux culturels, des lieux essentiels pour les artistes, l'émancipation, mais aussi pour, encore une fois, l'accès à la culture. Nous, on se présente comme la première scène de France, donc la première scène de ces artistes, mais aussi du public, ce qu'on trouve important de le présenter comme ça. Et on aide aussi un peu, moi j'aime bien aussi dire que maintenant on présente aussi, on aide le droit à la nuit, parce que je trouve que l'image de la nuit est en train d'un peu s'étouffer actuellement.
Très bien, merci. Et Léa Sanzo d'Abin, du GIP Café Culture.
Bonjour à toutes et tous, moi je suis donc Léa Sanzo et je dirige le GIP Café Culture. Le GIP Café Culture, GIP, c'est l'acronyme de Groupement d'intérêt public. C'est important de rappeler ce que c'est, parce que c'est un lieu de coopération, nous aussi, un groupement d'intérêt public. Ça coordonne des membres de droit public et des membres de droit privé vers un intérêt commun qui est celui pour nous concernant, qui est celui de la lutte contre le travail illégal. Et donc le but du jeu au GIP, c'est d'accompagner les lieux de proximité, café, culture, association d'animation de quartier, etc., à faire du spectacle, mais à faire du spectacle correctement et donc à déclarer et salarier les artistes en bonne et due forme. Voilà, pour que tout le monde s'y retrouve.
Un dispositif d'aide à l'emploi, à l'embauche des artistes, techniciennes et techniciens. On va y revenir dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais qu'on rappelle peut-être le rôle que jouent ces cafés-concerts et petits lieux culturels dans nos territoires. Léa, Liane ou encore Julien, qui se lance dedans.
Allez, j'y vais. On a combien de temps? Un endroit de lien social, un endroit de vie. Ces petits lieux sont aussi des endroits qui sont souvent les premiers terrains de jeu des artistes. Alors je parle pas que des musiciens, Liane m'en parlera mieux que moi sur la diversité des projets artistiques qui peuvent venir dans ces endroits. C'est des lieux de passage. Il y a une fonction culturelle, sociale, économique qui est hyper importante. Alors après, effectivement, il y en a qui sont en milieu rural, il y en a d'autres qui sont en milieu urbain, qui n'ont pas forcément les mêmes environnements et les mêmes contextes socio-économiques. Mais pour moi, voilà, c'est là l'essentiel.
Et intergénérationnel, moi j'y vais aussi. C'est que c'est des lieux où on n'y va pas forcément pour aller voir un concert, on y va au départ pour boire un verre. Et il y a cette expérimentation un peu culturelle que je trouve assez chouette. Je sais qu'il y a plusieurs de lieux vraiment identifiés comme les vrais cafés, enfin les vrais, des cafés que concerts ou culturels, comme une programmation vraiment toute l'année maintenue, qui les gens ils vont venir sans vraiment connaître forcément l'artiste qui passe. Et il y a cette petite côté curiosité qu'on trouve plus. Et je trouve aussi qu'il y a aussi l'apprentissage d'aller en concert. Moi, je le vois. Enfin, on apprend aussi. On a la proximité du public, on a la proximité de l'artiste. On peut aller plus facilement leur parler aussi. On peut donner envie aussi à en faire de la musique ou autre chose. Et je trouve ce lien-là est important sur la scène pour le coup.
On parlait du Marquis de Sade tout à l'heure pour illustrer un petit peu pour les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce que c'est qu'un café culturel, comme vous le rappeliez tout à l'heure. C'est aussi par exemple le Coquelicot à Fougères. Ce sont ces lieux qui ont été illustrés par la production sonore de la série Notes de comptoir et aussi dans l'expo photographique. Aujourd'hui, peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les principaux obstacles que ces lieux commencent à connaître ou connaissent depuis plusieurs années ?
Il y en a beaucoup. En fait, ils en ont depuis déjà pas mal d'années. Il y a toujours le problème du son, le problème du voisinage. On associe souvent ces lieux-là à du bruit. On le voit en plus, je trouve que c'est encore plus flagrant après le Covid, où il y a cette notion du silence. La nuit est faite pour se reposer. Il y a ce problème du bruit. Il y a beaucoup de problèmes de voisinage, donc on règle aussi pas mal ce souci-là. Il y a le problème aussi, parce que dans ces cas-là, on demande souvent une étude acoustique qui coûte très cher. On a aussi des travaux qui vont coûter très cher pour pas forcément avoir un bon résultat. Je pense qu'il y a un souci aussi des fois avec la médiation, avec le voisinage. Et ces lieux-là découlent de plus en plus ce souci-là. Des soucis économiques aussi, parce qu'on parle de lieux qui, au départ, les trois quarts sont gratuits, c'est des événements gratuits, donc financés par le bar. Avant, les bars s'y retrouvaient économiquement parce que la personne qui venait au concert ou à l'événement consommait le comptoir, c'est-à-dire que consommait. Sauf que ce n'est plus trop le cas, parce qu'on voit bien que les bourses de tout le monde se réduisent. Et donc, ce qui leur permettait de retrouver un peu une économie commence à se fragiliser, parce que les gens, avant, quand ils prenaient 3-4 bières, se retrouvaient à en prendre une, souvent la moins chère. Économiquement, c'est compliqué. Moi, j'aime bien le rappeler que je trouve qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est être militant qu'avoir un café culturel. C'est pas du tout... économiquement, c'est pas simple.
Alors, on parle souvent d'un paradoxe pour ces lieux. D'un côté, ils bénéficient d'une certaine reconnaissance et des dispositifs de soutien. Alors, peut-être pas tous, hein, le GIP, dont on reviendra dessus. Et de l'autre, ils doivent aussi faire face à des règles et des contraintes qui peuvent les freiner. Que constatez-vous, justement, concrètement, là-dessus, à la fois sur le terrain et dans votre vision peut-être stratégique, ce que vous pouvez défendre aussi auprès des institutions?
Je trouve qu'il y a, chaque fois qu'on fait un pas en avant, il y a toujours quelque chose qui nous ramène en arrière. Et je ne suis pas négative, mais par exemple, en 2020, le collectif a gagné la loi sur l'antériorité. C'est-à-dire qu'en très gros, un riverain qui a acheté au-dessus d'un bar, il devait acheter en connaissance de cause. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire que le bar a le droit de tout faire et que c'est la fête. Évidemment, non. Mais à côté de ça, il y a le décret son qui a un peu cassé aussi cette dynamique-là. Pareil pour le GIP, nous on a co-créé aussi le GIP, c'était justement pour, Léa en parlera mieux que moi, mais pour aider la patronne ou le patron à payer du coup ce fameux guzo. Là on voit bien qu'il y a certaines régions qui se rétractent, encore une fois Léa en parlera mieux, mais nous il y a la région quand même qui était la région Pays de la Loire qui a fait beaucoup de mal. Moi j'ai beaucoup plus de lieux qui jusqu'ici reprenaient le GIP, qui là se questionnent et commencent à réduire drastiquement leur programmation. On voit aussi que la place du live, moi, se pose. On a quand même beaucoup de bars qui, faute de moyens, prennent moins d'artistes parce que, bon, bah, 4 cachets, ça fait quand même un coup et ça joue 50 minutes. Tandis que, bon, bah, vu qu'il faut une animation, bah, on va prendre un DJ ou un DJ qui va coûter juste un cachet et qui va jouer pendant 3 heures. On le voit de plus en plus. Après, moi, je trouve ça assez rassurant dans le festival Barbar. On en parlera après, mais... On a quand même le live est quand même présent. Après, il y a des choses chouettes qui se posent aussi. Je trouve que cette scène-là se pose aussi, se positionne sur la parité aussi, sur le place, comment aussi si le public se sent bien. On va parler de violence sexuelle, mais du côté de l'artiste, de l'accueil de l'artiste, mais aussi l'accueil du public. Comment le public va y aller. Donc ça fait partie de notre métier, de voir comment, une fois que le public va aller au concert, comment il va sortir après du bar. Parce que ça fait pas encore partie de la nuit, quoi, donc d'insécurité et un grand débat aussi qui fait partie des problèmes que peuvent avoir les bars.
Peut-être du côté du GIP Café Culture, est-ce que vous partagez ce constat que lorsqu'on fait un pas en avant, on fait aussi parfois un pas en arrière sur d'autres sujets? Elle en est où la relation avec les acteurs publics sur le sujet que vous portez?
Nous, on n'a pas forcément ce regard-là. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réel engagement de la part de l'État et des collectivités territoriales. Et cet engagement-là, on peut le mesurer, quoi. quand le GIP a été créé par différents membres, et notamment le collectif Culture Barbare, mais aussi la CGT Spectacle, l'UMIH, le syndicat majoritaire de l'hôtellerie et de la restauration, et aussi, effectivement, comme ça a été dit par Liane, la région Pays de la Loire et la ville de Nantes, entre autres. À ce moment-là, il y avait une petite poignée de collectivités qui étaient adhérentes du groupement, il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles sont 93 collectivités territoriales adhérentes. L'État s'engage depuis 2017 dans le fonds d'aide aussi, donc verse des fonds que nous redistribuons sur le territoire national. Depuis 2024, on a eu des fonds complémentaires de l'État, donc on mesure un engagement croissant de la part des collectivités territoriales de l'État. On observe, c'est vrai, pour la première fois des retraits. Il y a eu 2 retraits de collectivités qui sont enregistrés au GIP Café Culture, la région Pays de la Loire et le département du Puy-de-Dôme. C'est la première fois que ça arrive en 10 ans. Mais je ne peux pas dire qu'on avance d'un pas et qu'on recule de 2. C'est pas vrai. Il y a en tout cas, côté GIP, il y a vraiment une mobilisation croissante et durable. On peut observer aussi une vraie mobilisation de la part des pouvoirs publics pour favoriser quand même le quotidien des cafés qui organisent des spectacles. Nous, on ne parle pas de café culture parce que ce n'est pas un label et que nous, on aide vraiment toutes les structures qui nous sollicitent et qui répondent à nos critères, mais j'imagine qu'on y reviendra. En tout cas, on a observé par exemple une facilitation d'obtention de la licence d'entrepreneur de spectacle, et c'est des démarches qui ont vraiment facilité la vie des gérants, des exploitants. On observe aussi des formations réduites. Enfin, il y a des avancées quand même. Donc nous, c'est ça qu'on observe et on peut le mesurer aussi, mais voilà, on nie pas les autres réalités, mais heureusement, il y a un engagement qui ne fait que croître côté GIP Café Culture, et heureusement, il le mérite.
Alors, la région de Pays de la Loire, vous l'avez dit, a annoncé donc son retrait du GIP Café Culture à partir de 2026, donc une décision politique, donc qui interroge aussi directement le sens que les collectivités donnent aujourd'hui, finalement, à leur engagement pour la culture de proximité. Même si vous avez dit que c'est quand même croissant, enfin en tout cas les collectivités rejoignent le dispositif. Est-ce que cela inquiète quand même quand il y a des retraits comme ça, pour peut-être le maintien du modèle qu'est le GIP Café Culture, donc qui a deux fonds, hein, le fonds pour les cafés, hôtels et restaurants, et donc aussi un fonds ponctuel pour les associations type comité des fêtes ou qui organisent des concerts ponctuellement.
Alors, dans tous les cas, nous, on s'adresse qu'aux organisateurs occasionnels. On a un fonds historique qui a été dédié aux cafés, hôtels, restaurants, et qui a 10 ans cette année. Et depuis 2 ans, on a créé un deuxième fonds en direction des autres employeurs occasionnels, en dehors des cafetiers, hôteliers, restaurateurs. Et là, la liste est infinie. Ça s'adresse aussi bien au comité des fêtes qu'aux foyers ruraux, aux associations d'animation de quartier, MJC, planning familiaux, CCAS, petites communes de moins de 3 500 habitants. La liste est très longue. Donc on a 2 fonds avec un système qui est le même, hein, la même prise en charge, la même interopérabilité avec le GUSO. Donc oui, un retrait, ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'en fait, on est, nous, pas seulement un outil de politique culturelle, et c'est ça vraiment qu'on veut défendre aujourd'hui. On est aussi un outil qui est, en fait, finalement, un outil de politique publique au sens large. On a un impact sur l'attractivité des territoires, on a un impact sur le tourisme, et pas seulement sur la culture. Et pourquoi on a ce triple impact ? Parce qu'en fait, ces lieux de proximité là, et c'était la question qui avait été posée en préambule, ces lieux ne sont pas là que, si on prend l'exemple du café par exemple, ne sont pas que des débits de boissons. On observe bien qu'ils ont un rôle central dans le centre-bourg, dans le village, dans la ville, et qui dépassent le simple débit de boissons, le simple lieu culturel. Ils ont un impact économique, ils ont un impact touristique, et du coup ça, c'est ça qu'on a envie de défendre au GIP, et c'est ce qui nous permet d'être intéressant pour une collectivité, parce qu'on croise différentes compétences, différents champs, et qu'on répond pas seulement à une politique qui souhaite développer sa politique culturelle, on peut vraiment répondre à différentes problématiques, et ça nous sauve.
Vous parlez à l'instant de lieux qui vont au-delà de la culture accessible à tous et toutes, mais aussi on parle de lien social. Là, Julien, vous l'aviez évoqué en début d'émission. Pour Supermab, de votre côté, quel levier institutionnel vous serez nécessaire pour accompagner toujours plus ces lieux, sans brider, là, si on parle, la liberté d'expression aussi, la liberté, la pluralité artistique qui est représentée au niveau de la musique dans ces lieux culturels divers ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question.
Est-ce qu'il y a d'autres leviers institutionnels qui résonnent peut-être avec ce que Liane et Léa ont déjà énoncé, qui pourraient vous aider plus, vous, dans votre mission ?
Oui, là, c'est vrai que ça serait intéressant d'interroger nos partenaires publics là-dessus. C'est vrai que quand on voit qu'une région se désengage, comme les Pays de Loire se désengagent, pas que des cafés, mais du champ culturel, il y a une posture idéologique derrière ça. Il y a des choix politiques qui sont liés à une idéologie, qui sont liés aussi à la manière dont on envisage une politique publique. Donc tout ça, c'est des choix, effectivement, avec des enveloppes budgétaires qui se rétrécissent tout le temps. Ça, on le sait, on nous le dit beaucoup. Mais à un moment donné, où est-ce qu'on place le curseur sur une politique culturelle, sachant que pour moi, c'est toujours intéressant de réfléchir en écosystème. Alors écosystème au sens écologique, pas au sens économique du terme. Les petits lieux sont un maillon de la chaîne qui, s'il disparaît, va poser beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les acteurs, et nous on le voit à notre échelle de réseau régional, c'est-à-dire que, alors nous on n'est pas qu'un réseau professionnel, on est là pour accueillir des petites prods, des petits labels, des artistes, et puis bien sûr des projets plus structurés, mais on sait que si ce type d'acteur disparaît, ça va déstabiliser toute une filière entière. Pour les choses qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça, pour moi, c'est quand même un argument important qui porte pas toujours parce qu'il y a des arbitrages budgétaires à faire. Il y a les municipales qui arrivent. Donc là, on s'est dit, avec Liane notamment, et puis Cécile du TICOS, parce qu'on projette d'organiser une rencontre de ce groupe de travail micro à Morlaix à l'horizon février, on s'est dit que ça pouvait être aussi un terrain de jeu intéressant, parce qu'effectivement, quand les élections approchent, ces cafés sont pris d'assaut par les prétendants au titre, on va dire. Donc ils savent que c'est là que ça se passe aussi, que les gens importants, les citoyens se rendent. Donc il faut qu'on fasse passer ce message. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas que des lieux où on boit des coups et on va voir des concerts, c'est des lieux qui ont une importance stratégique capitale sur l'expression culturelle d'un territoire. Pardon, je parlerai plus près du micro tout à l'heure.
Oui, moi j'aurais bien même réagi, c'est quand tu dis que là, ces petits lieux deviennent intéressants. Encore une fois, c'est pas général, hein. Mais nous on s'aperçoit dans, là pour le coup, les micro-lieux qui sont ce que nous on appelle les cafés ruraux, c'est des lieux qui sont des acteurs culturels quand il faut mettre en avant parce qu'il y a un désert culturel à ce moment-là, donc il faut mettre en avant la culture et le tourisme pour mettre en avant du coup le secteur, enfin la géographie, et d'un seul coup, donc il y a une petite nuisance, d'un seul coup, pof, c'est un lieu de débit de boisson où les gens sont ivres et forcément on dosse sur les tables. Enfin, je caractérise, mais c'est un peu ça, et c'est vrai que c'est cette image-là qui est des fois un peu compliquée. D'un seul coup, on est intérêt important et d'un seul coup, on ne l'est plus. Et il y a aussi autre chose, je trouve, qui fait un peu de mal, c'est comment on découvre les artistes. Enfin, avant, évidemment, le passage par le café culturel était indispensable. Là, on s'aperçoit qu'avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec le même truc qui est à fond, enfin, la découverte de l'artiste se fait autrement. En tout cas, pour la jeune génération, je trouve qu'il y a ça. Et c'est là que je trouve ça un peu inquiétant. C'est on passe direct aux gros artistes. Donc, je vois, on a des partenariats avec des festivals. On a le nôtre, mais on a d'autres partenariats. Et on a, par exemple, on a plusieurs partenariats avec des festivals de hip-hop. On a des artistes, des jeunes artistes qui, direct, quand on leur parle de faire un partenariat avec, par exemple, Doing It à Rennes, c'est non, on ne va pas passer par la scène des cafés, on va directement le Zénith. J'exagère, mais c'est un peu ça, et c'est vraiment spécifique, pour le coup, je trouve, à ce style-là. Voilà, c'est l'importance de ces lieux qui m'inquiète.
Et comment vous faites dans ce cas précis pour vous initier juste un dialogue? Ça a peut-être évolué aussi les relations que vous avez avec les artistes. Vous arrivez à leur faire comprendre que c'est quand même une étape importante, peut-être dans leur carrière et aussi pour faire vivre les territoires?
Pour le coup, à Rennes, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal avec Charles Song à motiver. Du coup, il y a plusieurs fois, il a pensé à des artistes qui ont refusé. Par contre, par exemple, le partenariat qu'on a avec l'Hip Hop Session à Nantes, on a une très belle scène féminine d'ailleurs qui... elle, par contre, je dis vraiment elle parce que c'est un beau noyau de femmes artistes qui, elle, s'empare complètement de la scène de bar. Et c'est vrai que dans la programmation d'Hip Hop Session, il y a une très belle scène. Alors, je ne sais pas si c'est lié, que ce soit des rappeuses et non des rappeurs, je ne sais pas. Il y a juste une très belle scène de rappeuses. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça dépend de la ville ou du style aussi, hein, je ne sais pas.
pour revenir sur, sur les élections donc, à venir, j'imagine que tu l'as dit, Julien, donc, ça cogite pas mal avec Supermab et le collectif Culture Barba à ce niveau-là pour eh bien, peut-être garantir la liberté d'expression de ces artistes et groupes. Liane, même dans ce contexte eh bien, complexe, il y en a d'autres aussi, des initiatives qui existent, collectives. Le festival Culture Barbare en est une. Il existe donc depuis il y a quelques années. Fin novembre 2025, ce sera la nouvelle édition. Et le festival donc, mobilise plus de 70 villes et près de 2000 artistes. Un festival essentiel, là aussi, pour maintenir la vitalité des lieux. Et peut-être aussi que... auprès des institutions, eh bien, ce festival appuie aussi les propos eh bien, des artistes et des collectifs.
Oui, oui, complètement. Bah, déjà, nous, on était agréablement surprise. Pour être tout à fait honnête, moi, et là, c'est personnel, j'ai eu peur qu'on ait moins de lieux. Parce que notre collectif présente 500 cafés, tous ne font pas le festival. Et j'ai eu peur qu'il y ait moins de lieux parce que bah, beaucoup ont vraiment réduit leur programmation. Et au final, on se retrouve avec le même nombre de paires de bars. Alors, il y en a qui ont fermé, il y en a qui ne l'ont pas fait, il y en a qui... C'est mon temps. Et c'est vrai que nous, ça reste un moment qui est vraiment joyeux. Ouais. Qui est vraiment joyeux et musical. On est agréablement surpris du programme, hein, parce que c'est qu'on a beaucoup, c'est essentiellement de la musique, mais on a des nouvelles scènes qui commencent à arriver. C'est pour ça qu'on parle vraiment de café culturel. On a par exemple la scène du stand-up, la scène du théâtre, la scène du drag show qui prend beaucoup d'ampleur. C'est aussi des fois des réponses à ces petits lieux qui, ben, faute de voisinage, ont dû arrêter de faire de la musique. Vous voulez quand même continuer à avoir cette programmation culturelle et le font. C'est vrai qu'on est assez fiers parce que pour le coup, il y a les grosses villes, évidemment, il y a Rennes, il y a Nantes, il y a Lille, mais il y a aussi pas mal de petits cafés qui sont tout seuls. Par exemple, Cécile de Ticot dont on parlait, c'est la seule de Morlaix à le faire. Le Sessonnet, c'est pareil, je sais qu'il fait partie aussi de Microlieu. Et eux, pour eux, c'est vraiment le côté militant. Parce que c'est vrai que quand on le fait dans une ville et qu'on est 50 à le faire, il y a plus d'impact que quand on est tout seul. Et c'est vraiment cette démarche de on existe, on est là, et en plus, on va faire jouer la scène locale ou pas. Enfin, c'est un moment qui est important pour nos adhérents.
Alors on va poursuivre cette émission, je vois l'heure tourner, on va laisser bientôt la place à Yann, mais peut-être voilà, on va ouvrir la question, savoir si pour vous voilà, s'il y a une mesure qu'il faudrait peut-être proposer ou voilà, si vous avez une idée, c'est une question assez large, je comprends bien, mais à proposer ou à indiquer à nos politiques pour la défense de ces micro-lieux, de ces artistes émergents, ce serait quoi ? Qui veut se lancer ?
Je sais pas. Il y a du chemin à faire aussi dans les deux sens. Je pense que effectivement, ce qui va sauver les lieux à un moment donné, c'est de s'unir. On parlait du pays de Morlaix tout à l'heure. Il y a un collectif qui se met en place. Enfin, ces lieux, c'est des petites organisations, des petites associations. C'est parfois associatif, parfois ça ne l'est pas. Mais c'est des lieux où se fabrique la démocratie. Mais tout seul, c'est compliqué, quoi. Donc à un moment donné, bon, nos réseaux sont une réponse aussi. Mais en local, il faut aussi construire des choses. Il faut aussi parfois montrer qu'il y a une évolution sur certaines choses. Il y a des, on l'a effleuré un peu tout à l'heure, mais il y a des gros enjeux de sens, des enjeux de santé publique aussi qui sont à la croisée des chemins, des lieux et des pouvoirs publics. Enfin, il y a un certain nombre de terrains. C'est-à-dire que on parlait de la nuit aussi et puis de l'attractivité des territoires. Tout ça, c'est quand même des sujets qui intéressent les futurs, les candidats aux élections. J'allais dire présidentielle, non, aux élections municipales. Donc j'imagine qu'il y a quand même moyen de s'entendre là-dessus et les lieux, sans pour autant être instrumentalisés, bien sûr, peuvent être des acteurs essentiels de tout ça. Donc je pense que c'est aussi au lieu d'être force de proposition là-dessus, de s'organiser et d'aller apporter quelque chose. Je pense qu'on ne peut plus attendre que ça vienne tout seul. Il faut s'organiser et puis appuyer aux bons endroits.
Je sais que nous, on s'appuie beaucoup sur les lieux, du coup. Donc nous, vous l'avez compris, on aide les cafés, hôtels, restaurants, mais pas que. Depuis 2 ans, on aide vraiment d'autres types de structures. Mais en tout cas, on aide des lieux ou des structures de proximité. Et on les... mobilise nous vraiment sur le fonctionnement du dispositif. On gère des fonds publics, donc c'est des fonds, enfin voilà, l'argent ne pousse pas dans les arbres et rien n'est dû. Et du coup, nous, on passe vraiment beaucoup de temps à expliquer comment le dispositif fonctionne, quels fonds publics on perçoit en fonction du territoire où elles sont, leur rappel, quelles sont les collectivités qui jouent le jeu de l'adhésion ou non, quelle est la part de la participation de l'État, et quand les fonds viennent à manquer, ça arrive sur certains territoires. On fait vraiment un gros travail d'accompagnement et de pédagogie pour rappeler comment ça fonctionne et du coup comment eux peuvent se mobiliser avec nous pour aller chercher des nouveaux financeurs, des solutions. Il y en a plein, des mesures, j'en aurais plein à donner. C'est assez facile de savoir comment aider ces lieux. En tout cas, il y a pas mal de dispositifs qui existent et du coup, il manque parfois des moyens. Et là, nous, voilà, on s'appuie sur les différents réseaux qui nous accompagnent, qui sont parfois membres du GIP. On s'appuie sur les collectivités déjà adhérentes, on s'appuie sur les bénéficiaires pour aller chercher toujours plus de collectivités territoriales. Tous les niveaux de collectivités peuvent adhérer, donc ça, c'est une chance. Et donc, voilà, souvent, on s'appuie. Je sais qu'avec Cécile du DICOS, on a un enjeu. Il y a un financeur qui manque et il faut qu'il arrive. Et du coup, enfin, voilà, on s'appuie. J'avais Samuel du Couta à Erdeven hier au téléphone. On n'a pas le département du Morbihan, il manque à l'appel ce département. Et voilà, voilà. Et donc, c'est. Julien a raison, la mobilisation collective, on sait qu'elle peut porter ses fruits. On l'a vu à Lyon, il y a eu un très bel exemple de mobilisation collective de la part des artistes et des cafés pour que la ville de Lyon essaye de débloquer un petit peu plus de financement. Donc voilà, il faut qu'on ne soit pas tout seul. Et nous, on apporte une parole qui est technique, on gère un fonds d'aide, on est un outil de gestion. Et quand il y a une parole très concrète du bénéficiaire, que ce soit un cafetier ou une association d'animation de quartier, un comité des fêtes, ça a forcément un autre écho, et effectivement encore plus quand on est en période électorale. Donc voilà, je pense qu'effectivement, la mobilisation collective, elle fait sens et elle permet d'être extrêmement complète et toucher à peu près tous les niveaux en fait, de sensibilité. Donc je pense que c'est une des clés pour obtenir plus de financement. Nous, on a besoin d'aide et notamment de la part des bénéficiaires pour qu'ils se mobilisent et qu'ils participent avec nous à aller chercher d'autres financements.
Oui, moi, je rappellerai, comme je l'ai dit au tout début, qu'ils n'oublient pas... Qu'ils n'oublient pas la politique nocturne, qu'ils n'oublient pas que c'est un temps qui peut exister et que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais qu'on peut être dans un bar comme on peut dormir et qu'on n'oublie pas aussi l'importance de la culture. Je trouve qu'on l'a beaucoup trop bafouée. Et autant les micro-lieux sont en train de souffrir, mais les artistes aussi. Et je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas qu'ils oublient l'importance de la culture, qu'on la brade pas pour le divertissement. Et voilà, je pense que ça serait bien qu'ils y pensent.
Soutenons-nous les uns les autres, s'il faut résumer en quelques mots ce que vous venez de nous dire là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été Merci. Dans cette première Merci. Partie. Merci. Je rappelle qu'on est sur le 94.9 FM sur Canal B.
94 et... FM.
Oui, voilà. Oui, 94.9, ben non, 94. Et sur Radio Boa, en DAB+. On va retrouver Yann dans quelques instants avec Sébastien du Marquis de Sade, Sarah Chajari, la photographe qui s'est occupée de photographier cette exposition, Note de comptoir. Rejoignez-nous, chers auditeurs, auditrices, si vous êtes du côté de Rennes, pour ce vernissage qui a lieu aujourd'hui même. Et puis, on retrouvera aussi My Little Cabbage, avec Jeanne Lemoine et Eric Martin. Mais avant, on va écouter, qu'est-ce qu'on va écouter ? On va écouter, dans le cadre du festival Culture Barbare, et il passe du côté du Tiana, c'est Chaps Troupeau de Poupées.
Appris à les aimer, les maquiller nos poupées, les bichonner, les parfumer, on a appris la beauté. Je crois que j'étais un peu à côté, je voulais la moderniser. Alors j'ai acheté des ciseaux et puis j'ai tout coupé. Je pensais que ça repousserait. Et puis ça a continué, au moins jusqu'au lycée. On me disait, mais tes cheveux, tu voudrais pas les lisser. Tu vois bien que personne ne fait ça, mais comment tu t'y prendras pour te faire désirer? Dans un troupeau de poupées, on doit avancer avec nos talons aiguilles et nos chevilles fêlées. Ton ventre, tu dois le rentrer dans ton jean trop serré. un peu trop moulée. Mais fais pas trop la poupée, car si une main déplacée venait un peu s'approcher d'une zone non désirée, tu comprendras que parfois ces petits chats ne peuvent pas contrôler. Et puis 15 ans sont arrivés, j'avais des poils qui poussaient. Je me suis dit naturellement qu'il faudrait les enlever. Alors j'ai acheté ce petit pot de cire qui coulait et qui me brûlait. Je ne pourrais plus les compter, tous ces moments compliqués. Assis par terre dans mes toilettes, les deux jambes écartées. Non, ce n'est pas ce que vous pensez, j'avais seulement un bout de cire et bien accroché. On doit avancer avec nos talons aiguilles et nos chevilles fêlées. Ton ventre, tu dois le rentrer dans ton jean trop serré, un peu trop moulé. Mais fais pas trop la poupée, car si une main déplacée venait un peu s'approcher d'une zone non désirée, tu comprendras que parfois ces petits chats ne peuvent pas contrôler. Je vois que d'un jour à l'autre, on peut nous dire de ne plus choisir. On peut te dire que c'est ta faute. Et t'es surtout là pour le nourrir. Dans un troupeau de poupées, on doit avancer avec nos talons aiguilles et nos cœurs déchirés. Ton ventre, tu dois le rentrer dans ton jean trop serré. Trop moulé. Mais fais pas trop la poupée, car si une main déplacée venait un peu s'approcher d'une zone non désirée, tu comprendras que parfois ces pauvres petits chats ne peuvent pas contrôler.
Chaps, à l'instant sur Canal B et Radio Boa. Chaps, que vous pourrez retrouver non pas au Tiana mais au Sinti le jeudi 27 novembre prochain dans le cadre du festival Culture Barbare et d'une soirée donc lead féminin aux côtés de Johanna Moon ou encore Eva Luna. On poursuit eh bien, cette émission spéciale Notes de comptoir pour le vernissage donc, de l'exposition sonore et photo et on retrouve Yann de Canal B.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci Clément. On va parler avec Sarah, l'atelier du canal. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et puis Sébastien, on t'appelle plutôt Seb d'habitude, du Marquis de Sade.
On a la radio, c'est important.
Ouais, on va t'appeler Sébastien.
Seb, c'est très bien.
On va rester comme ça, le Marquis de Sade, Café Concert Rue de Paris à Rennes, que nos auditeurs à Canal B connaissent. Je pense que les auditeurs auditrices de Radio Boa aussi. Une programmation indie, hein, vraiment à tout craint, mais qui va vers aussi, en plus de la musique noise ou indus, vers les shows drag, vers la proposition aussi autour du football. Oui, oui, oui. Tout peut se mélanger, n'est-ce pas, Sébastien ?
On mélange.
Et puis Sarah, qui est un peu la témoin ultime de ces notes de comptoir, puisque tu es la photographe qui t'est rendue à Port-Sal, à Brest, à Morlaix, partout dans ces 20 lieux. Alors, tu vas pas nous les décrire tous un par un. On va en choisir quand même 4 parmi ces 20 qu'on peut écouter hein, bien sûr sur Radio Boa, sur Canal B aussi. On va commencer peut-être, pourquoi pas, du côté de la rue de Paris, du côté de Rennes, du côté du Marquis de Sade, et savoir comment toi, tu as découvert le lieu à travers ces prises de vue pour notre de comptoir ou tu le connaissais déjà auparavant ?
Alors, j'étais passée devant à de nombreuses reprises, mais je n'avais jamais poussé la porte.
Beaucoup de gens disent ça. Il doit avoir une sale gueule à l'intérieur. Je ne sais pas.
Non, et du coup, tu as une devanture vitrée, ouais, avec le panneau rouge, ouais, Marquis de Sade.
Voilà.
Tu ouais, rentres.
Plus ou moins de graffiti dehors, des fois, selon la saison. Ouais. Ça change.
Et donc, dans cette rue, en fait, je ne sais pas s'il y a d'autres bars.
Dans la rue, alors il y a moins de bars que ce qu'il y avait à une époque, ouais, mais il reste quand même effectivement un bar à l'angle. Et puis dans le quartier, on est quand même, notamment le Saint-Y qui a été évoqué pour le festival qui est un voisin, Tête de Chou qui est aussi un adhérent du collectif Barbare. On a quand même pas mal de bars dans le coin qui essaient de faire vivre cette vie de quartier. C'est tout nouveau, mais on a créé un petit assaut qui s'appelle le Triangle des Bermudes, tu vois, entre le Saint-Y, Tête de Chou et Marquis. Voilà, c'est ce petit lieu de perdition dans ce qui est considéré comme les beaux quartiers quelque part vu de loin. Et finalement, c'est vrai que les grosses maisons bourgeoises sont un tout petit peu plus haut dans le nord. Et là, on a quand même, on s'est rendu compte, une belle mixité dans ce quartier qui est plaisante à vivre au quotidien, qui permet effectivement, comme tu dis, d'avoir un show de drag et un match de foot en même temps, en se racontant ce qui s'est passé au concert la veille, quoi. Et c'est plutôt chouette.
Il y a une grande diversité hein, dans ces micro-lieux, dans ces cafés culture, cafés concerts. Certains vont devenir épicerie le temps d'un week-end ou le sont tout le temps. Certains vont accueillir des résidences d'artistes. D'autres vont proposer du drag show ou du stand-up. Diversité incroyable. Après avoir découvert le barman, Sébastien, le lieu, est-ce que tu es allé voir des concerts aussi là-bas, Sarah? Est-ce que tu as pu voir la proposition artistique vraiment du lieu?
J'ai suivi sur les réseaux. Et du coup, quand tu rentres, en fait, tu as le bar un peu classique où pas mal de gens sont succédés, des familles, des petits, des habitués, des personnes un peu moins habituées. Et derrière, c'est la salle de concert. Et donc, vous accueillez régulièrement une prog musicale?
Oui, c'est que, comme tu disais, il y a une partie musicale, il y a une partie show drag, et puis on bosse beaucoup avec les assos, parce que c'est
des assos, je peux en citer quelques-unes avec lesquelles vous travaillez. Il y a Carvinou, il y a Cafuel, il y a Mourir Bête, il y a Désordre, il y a From Town to Town, très nombreuses.
Et je dirais que c'est un de mes premiers souvenirs, c'était avec Jean-Louis de l'Alambic qui faisait venir un groupe. Alors moi, j'étais en prétentieux à l'époque. Hein. Je me dis, attention, je fais de la programmation musicale.
Attention.
Je m'y connais. Tu parles que si j'écoutais que ce qu'on. Si j'ai programmé que ce que j'aime. Et ça serait souvent vide. Et puis, il y a ce petit groupe qui arrive, un duo, lofi, pop minimaliste. Ça ne marchera jamais ce genre de truc, quoi. Ça s'appelait La Honte. Les chanteurs, c'est Rouge-Gorge, quoi. Tu vois. Et tout le bar se met à chanter cette reprise plus violette de. Et là, j'ai dit, j'arrête de faire de la prog tout seul dans mon coin, parce que là, évidemment, il y a des gens qui savent très bien faire. Et cet écosystème, en fait, il est quand même, c'est tripartite dans ce petit milieu rennais. C'est qu'il y a les lieux, il y a les groupes, et il y a les assos, qui sont quand même le maillon essentiel, qui permet à ces lieux qui ne sont pas subventionnés, parce que c'est quand même ça, mis à part le GIP Café Culture, qui permet quand même, à l'occasion, de financer du guzo, mais c'est pas viable à l'année, ça. Hein, c'est ponctuel, comme on dit. Donc c'est bien d'avoir ce support associatif, ce tissu rennais qui est quand même extrêmement important, extrêmement vif, et qui permet au bar rennais d'être cette première scène aussi de petits groupes émergents qui n'auraient pas dû y jouer finalement, parce que quand t'as rien, pas de démo, pas de truc, à part ta gueule, donc les gamins ils arrivent, on a fait un groupe, on a envie de jouer, venez jouer les gars, et puis on va. Puis il y a les copains qui viennent, les papas, les mamans, les tontons, les tatas, et puis des fois ça devient un groupe qui fait les charrues derrière, hein, puis des fois ça devient juste un groupe de darons qui jouent encore 20 ans après, deux fois par an, en se rappelant qu'ils ont joué ici en 80.
Et alors, ils ont le droit.
Ils ont le droit, évidemment.
Alors, on va pas refaire l'épisode Note de comptoir, on va pas refaire le match là, parce que vous pouvez l'écouter, mais on va revenir un petit peu sur là où on était resté. Si vous avez écouté, vous saurez. Sinon, vous avez envie d'écouter maintenant, évidemment. En mars-avril 2025, on t'entendait, Seb, tu n'étais pas le seul à intervenir. Il y avait Océane aussi hein, qui bossait.
Je l'ai plaindre sûrement.
Et puis plein d'autres qui étaient intervenus. Toi, tu parlais un petit peu d'inquiétude hein, quant à un avenir qui s'annonce un petit peu plus compliqué, on dirait, encore. Il est lié à quoi, vraiment, à cette gentrification que vous avez évoquée dans la première partie de l'émission, à ces contraintes de mise aux normes sonores, équipement recevant du public ou ces choses-là. C'est quoi qui t'inquiète le plus pour l'avenir, finalement, maintenant, là?
Ce qui m'inquiète le plus, c'est... si on parle de Rennes, hein, il y a vraiment une... Je pense que c'est sûrement valable d'ailleurs. Il y a quand même une mutation en termes en termes urbanistiques. Alors effectivement, on a vu le post-Covid, comme disait Liane, le droit au silence, mais aussi le droit à la fête, qui doivent cohabiter. Bon, il y a aussi eu cette émergence, sans dire ni du bien ni du mal, mais ça, c'est un fait, cette émergence de nouveaux lieux que sont par exemple les guinguettes. Bon, il y a 5 ans, il n'y avait pas de guinguettes. Aujourd'hui, nous, du 15 mai au 15 septembre, il n'y a pas de terrasse, tu ne bosses plus, hein, c'est fini. C'est, même si tu fais une belle prog, il y a aussi de la prog qui se fait dans ces lieux qui sont un peu en périphérie, qui sont juste des très beaux lieux champêtres, il n'y a pas de souci, mais contre lesquels on ne peut pas lutter parce que bah, oui, il fait beau, les gens ont pris l'habitude, presque, je dirais, post-Covid, de se dire on fait une terrasse. Ça aussi, c'est un changement qui se faisait. Enfin, il y a 25 ans, on aurait dit aux gens les terrasses rouvrent, ils n'auraient même pas su ce qu'on voulait dire. Il y a les bars, il n'y a pas les bars. Mais se dire les terrasses ouvrent, et se dire on se fait un after-work guinguette dans une zone industrielle. C'est un modèle économique qui n'existait pas il y a 15 ans encore.
Et on peut même se faire tatouer, il paraît.
Et réparer la moto, voilà, on peut faire plein de trucs. Mais c'est des choses nouvelles, il y a des mutations dans le business qui ont lieu. Le bar de quartier où tu ouvrais les portes et les mecs du coin venaient, et puis de temps en temps, il y en a qui prenaient la guitare et qui jouaient, c'est de plus en plus rare. Hein. C'est même un modèle, effectivement, qui va vouloir disparaître. On a vu. Alors, quand même, les bars de quartier reprennent un petit peu. Les gens ont un petit peu envie d'être en bas de l'immeuble, alors que ce soit pour ne pas prendre la voiture et puis se dire bah, on rentre à pied, même si on a pris une bière de trop. Que ce soit pour éviter centre-ville aussi, parce qu'il commence à y avoir un mouvement qui se disent bah, quand t'as plus 25 ans, est-ce que vraiment c'est intéressant d'aller. Jusque place Sainte-Anne, peut-être pas.
D'autant plus que deux nouveaux bars ouvrent dans des quartiers en périphérie, même oui. Au sein de la ville, quoi. Pas forcément
oui.
À la campagne.
Oui, c'est ça. Non, c'est ça, effectivement. Il y a quand même des couronnes rennaises. Et puis je pense aux copains comme les Babazoula ou d'autres personnes comme ça qui sont sur des terrains pas évidents au départ, hein, et puis qui font une vie de quartier. Et c'est quand même ça qui nous pousse à continuer quand même au jour le jour. De temps en temps, quand même, il y a des mecs qui disent merci, quoi. Tu vois, il n'y a pas que des gens qui se plaignent pour dire vous faites du bruit, machin. Hein. Non, il y a aussi des gens qui disent ouais, c'est cool.
Bon, on a commencé par Rennes, parce qu'on est à Rennes, ici, au Jardin Moderne. On va sortir un petit peu du département, puisque 4 départements bretons ont été abordés dans le cadre de cette série Notes de comptoir. L'impression qu'il y a plus de lieux en micro-scène, comme ça, du côté du Finistère, qu'en Côte d'Armor. Je sais pas, il n'y a pas eu 5-5-5-5. Clément, je te regarde, parce que tu as regardé de plus près que moi, peut-être, cette série Notes de comptoir.
On a essayé de satisfaire, en tout cas, tout le monde, d'avoir des bars du côté du littoral, en zone rurale, et puis cette diversité dont on parlait, c'était d'avoir aussi de découvrir ces micro-lieux, des épiceries qui ne font pas que programmer de la musique, des résidences, des salles de résidence même, plus que de café. Donc voilà, il a fallu essayer de cocher tout plein de cases. Ça a été un petit casse-tête avec l'Accord Lab, les collègues et Supermab aussi à trouver les différents angles aussi. Donc voilà, il y a une vraie diversité. On vous invite évidemment à découvrir tout ça sur corlab.org ou Radio Boa.
Voilà, on va aller du côté du Finistère avec Sarah, puisque Sarah, c'est notre témoin numéro un, je le répète, hein, qui a tout vu. Tous ces lieux-là. J'en ai face à moi ici, puisqu'on a une exposition hein, qui est vernie aujourd'hui, ce mercredi, à un concert de My Little Cabbage. Ce seront nos invités un peu plus tard. On peut voir des belles photos de La Jetée, du O'Donnell's, du Coquelicot. Alors, certaines des auditeurs de Radio Boa, Canal B, savent où on est exactement. Tu choisirais un seul de ces endroits dans le Finistère pour le côté le plus étonnant qui t'a semblé, Sarah ? Ça serait lequel ?
C'est hyper dur. Le O'Donnell, c'est un des premiers que j'ai fait.
Vue incroyable, hein, quand même.
C'est ça. Et en fait, t'arrives dans un bar aux couleurs de l'Irlande, assez improbable, avec la vue sur le port, c'est juste magnifique. Et la programmation, donc on a Yann, le patron, bien entouré par ses collègues qui servent au bar. Très bonne ambiance et programmation assez variée en fait. Et c'est un fou d'Irlande, il y va régulièrement. Et il est assez pointu, si j'ai bien compris, dans la programmation musicale sur cette thématique irlandaise, mais pas que. Et donc c'est un des bars que je retiendrai, mais il y en a plein en fait. T'as le fret à la jetée du fret dans une petite tour,
c'est à Crozon, ça
ouais, exactement. Bah pareil, emplacement incroyable, programmation très éclectique et qui fonctionne aussi toute l'année, tout comme le O'Donnell. C'est ça aussi qu'on
qu'on peut dire. Moi, je ne pensais pas forcément que les bars, vraiment bord de mer, fonctionnaient toute l'année. Et ce type de micro-lieu, prouve que si. Et ça fait vivre le coin, toute l'année. Et ça, c'est vraiment hyper chouette, que ce soit pour des locaux ou alors pour les gens qui viennent pendant les vacances, l'été ou sur la haute saison, quoi.
Alors, même s'ils ont tous des ADN proches, ils sont différents les uns des autres, évidemment. Qu'est-ce qui les rassemble tous, ces 20 bars? C'est la volonté de s'engager pour les gens du coin et puis leur proposer des conférences, des rencontres, des expos.
Bon, du coup, j'ai pu assister aux enregistrements avec les différents journalistes et animateurs. Et c'est vrai que le lien commun, c'est la culture et la culture pour tous. La diversité aussi de la programmation de ces lieux être ouvert en fait sur leur territoire et le faire vivre au quotidien et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant l'engagement en fait des patrons, des patronnes et de
qui travaillent énormément. Sébastien qui est engagé lui aussi.
Non, parce que c'est un travail de fou en fait au quotidien de retrouver des artistes, de faire vivre le lieu, d'être sans arrêt dans la programmation. Enfin, ce que disait typiquement Oticose Cécile, c'est que ça prend un temps fou en fait de sélectionner les personnes qui peuvent venir dans son lieu et c'est qu'elle a beaucoup de demandes et beaucoup de demandes aussi de qualité donc. En fait, elle pourrait travailler 24-24, mais ce n'est pas forcément possible. Je ne sais pas si Seb, c'est pareil pour toi, mais...
Encore une fois, je me repose beaucoup moi, sur les assos, parce qu'effectivement, on est inondé de messages. Je ne sais pas où ces gens arrivent à jouer, d'ailleurs. C'est là qu'on voit quand même qu'il manque des lieux, hein, clairement, parce que les demandes sont énormes. Attends, j'en profite pour remercier tout le monde pour l'invitation et tout. et non, puis c'est vrai que tu avais bien... Enfin, j'avais beaucoup aimé la note de comptoir. Ça avait été effectivement un beau témoignage de ce qui se passait. Puis je te félicite aussi de venir parler de photographie à la radio, c'est pas facile.
c'est pas facile, mais on va continuer à le faire. Clément, tu voulais préciser ou demander quelque chose?
Ouais, c'était pour juste rebondir sur la programmation. Tu parlais du O'Donnell tout à l'heure, où effectivement il y a une programmation pointue. Pareil, Seb, tu laissais aussi beaucoup de place, tu laisses beaucoup de place aux associations pour programmer des choses dans ton bar. Au O'Donnell, la programmation, c'est qu'une association qui s'occupe de faire la programmation, notamment l'association qui organise le Festival de la mer du côté de Ploudalmézo. Donc voilà, c'est juste pour rebondir là-dessus. Au Fred, c'est pareil, il y a énormément d'associations. Donc ce côté de faire ensemble est là, en fait, quoi. Le collectif, donc il n'y a plus qu'à continuer, je pense.
Quand on voit en tout cas cette multiplicité de lieux et puis les photos superbes qu'a fait Sarah, qu'on va continuer à évoquer, hein, Seb, oui, on va parler de photos à la radio, un peu compliqué. C'est finalement un terrain de jeu assez idéal, idyllique, j'imagine, quand tu arrives dans un espace comme ça où il n'y a que des gens passionnés qui avec amour, bichonnent un lieu qui attire des passionnés aussi. T'as pas été mal reçu à aucun endroit, c'est évident. Est-ce que c'était facile de définir l'identité de chaque lieu? Parce qu'on pourrait imaginer, certains pourraient imaginer qu'ils ne fréquentent pas les bars comme ça, les bars concerts, que c'est interchangeable. C'est pas le cas du
tout. Absolument pas. Non, pas du tout. Après, l'accord là a fait un super boulot justement de sélection des lieux. Et donc, c'était hyper bien prévu en amont. Et à chaque fois, c'était la surprise. De débarquer dans ces lieux parce que pour être honnête pour la plupart je les connaissais pas donc là j'ai une super liste d'endroits en lien avec la culture et la musique donc ça c'est hyper chouette mais du coup en fait accueil exceptionnel honnêtement hein, de tous les gérants et gérantes qui des assos enfin en fait c'est multiforme donc de toutes les personnes qui étaient dans ces lieux des artistes que j'ai pu rencontrer aussi et aussi des gens en fait du public, enfin des habitués, des gens qui étaient là. C'était à chaque fois je repartais vraiment en me disant c'était vraiment encore une excellente soirée, journée. Accueil vraiment exceptionnel quoi. Et de voir des gens passionnés par ce qu'ils font, c'était super inspirant.
L'exposition Notes de comptoir, elle commence aujourd'hui. Vous aurez un petit peu le temps parce qu'elle sera visible au Jardin Moderne à Rennes jusqu'au 19 décembre. Et puis, j'ai même l'impression qu'elle va être itinérante à un moment. Je te pose la question directement, Clément.
Oui, oui, elle va être itinérante. Alors, on est en train justement de voir avec les bistrots justement qui ont participé à la série, voir comment on adapte cette exposition qui est ici au Jardin Moderne dans leur lieu, puisque effectivement ils sont tous atypiques, ils sont tous originaux, et je crois qu'on a trouvé le bon format en tout cas pour que ça s'adapte dans chacun d'eux. Et je crois que peut-être le prochain lieu ce sera du côté du Ticoz.
On verra ça. Je me retourne à nouveau vers Seb du Marquis de Sade à Rennes. Je ne vais pas te citer la liste des 20 bars. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir toutes les photos de Sarah, d'écouter tous les podcasts Notes de comptoir.
Bien sûr.
Mais en tout cas, je vais t'orienter vers un autre lieu, si tu veux. Un lieu que tu aimerais nous présenter, qui n'est pas forcément dans la liste, ou qui est peut-être d'ailleurs, et qui coche un peu ces cases-là d'engagement, d'amour, de passion, de lieu atypique.
Dans la liste, effectivement, oui, il y en a quelques... Enfin, je connais les exploitants, pas forcément le lieu, mais comme il y a beaucoup d'adhérents barbares, donc oui, facilement, j'ai vu Périne au Cessonnet. Super lieu, effectivement, c'est très engagé.
Alors le Cessonnet, c'est en Côte d'Armand, c'est pas à Cesson.
Je précise, oui, pour ceux qui ne savent pas, parce que... C'est un quartier de Saint-Brieuc, voilà. Ces gens-là, ils tiennent, ils sont Cessonnets, pas briochins. Non, puis évidemment, je peux pas manquer le pavé à Dornonnet, qui est quand même le petit dernier de la bande qui a ouvert.
Avec certains barman des marmets rennais qui sont allés s'exiler là-bas.
C'est ça, voilà. C'est effectivement une petite projection rennaise qui s'est retrouvée là-bas. Et puis ça marche parce que finalement, quand les gens sont passionnés, ça permet aussi de détendre. Voilà, les groupes qui sont en tournée, bougez pas. Vous avez un pépin, on s'appelle entre nous. Pour dire, s'il n'y a pas une place le mercredi, parce que vous pouvez en semaine, moi je peux pas, vous pouvez le prendre, et ça communique comme ça vachement bien. Alors là, tous nos problèmes différents, certains c'est le voisinage, l'extérieur, le truc, enfin voilà, c'est... Effectivement, moi j'ai pas vu sur mer, donc c'est plus compliqué d'attirer le touriste.
Le pêcheur ne vient pas te dire que tu fais trop de bruit, par contre. Ça c'est un peu le truc qui est bien.
Je connais pas tous, non, effectivement. Il faudrait que je fasse une petite tournée cet été.
Ça sera peut-être l'occasion d'éditer un bouquin. Je sais pas si Supermab, la Corlab, et puis l'Atelier du Canal avaient envie de sortir un livre sur ces beaux lieux de Bretagne. Bon, c'est pas le but, peut-être. On va terminer sans doute cette petite balade bretonne en quatre lieux. Tu as cité la jetée, Seb. On va aller peut-être, pourquoi pas du côté du Morbihan. Tiens, Sarah, un des lieux les plus fous que tu aies pu croiser grâce à ces photos pour la série Notes de comptoir, les plus fous que tu as envie de nous citer, hein, de toute façon, et de nous présenter un petit peu pour qu'on ait quelques images en tête. À la radio, c'est difficile, non?
Ouais, c'est peut-être le Kuta à Erdeven, du coup, avec Sam qui gère le lieu. Du coup, c'est une grande salle.
C'est un café-concert, le Kuta.
Tout à fait, café-concert. Qui est. Enfin, grande salle. Il y a une scène, il y a aussi une partie bar. J'ai assisté à un concert de Moondrake, c'était super chouette, énorme ambiance. C'était vraiment très sympa et le public du coup venait de... Il y avait des gens qui avaient des résidences secondaires dans le coin qui venaient régulièrement, il y avait des familles, il y avait des jeunes du coin, c'était leur... Enfin, le Kuta, c'était leur lieu de sortie. Il y a une terrasse aussi où ils se mettent, même en hiver, parce que j'y suis allée, il faisait pas un temps incroyable. Il pleuvait à seaux, mais c'était blindé en fait. Donc ce lieu était vraiment hyper chouette.
Je vous conseille évidemment de l'écouter, cette série entière de notes de comptoir. Pour revenir et sans doute terminer cette discussion avec vous deux, Sarah et Seb, je reviens vers toi pour... Sébastien, je t'appelle Sébastien, c'est vrai qu'on fait de la radio. Oui, pour cette réponse collective, pour la survivance de ce genre de lieu, vous avez beaucoup cité, tu as beaucoup cité en tout cas les assos qui t'accompagnent quotidiennement. Est-ce que la survie même d'un lieu comme le Marquis de Sade nécessite que des pouvoirs publics se penchent sur ce genre d'endroit ou t'as pas forcément envie de ça non plus finalement?
Alors, oui, il faut que les pouvoirs publics se penchent. Alors, on pense toujours à l'argent. Je pense que la politique de la ville aussi est importante. Il y a des exemples intéressants ailleurs en Europe, je pense à Berlin notamment, où ils ont un peu sanctuarisé des quartiers, où voilà, on sait que c'est là que les jeunes viennent faire la fête. Donc tu t'installes dans ce quartier-là, on sait que c'est moins cher, mais en contrepartie, il y aura... C'est ça. C'est comme celui qui va acheter une maison auprès de l'aéroport et qui gueule parce que les gens font du bruit. Non, c'est pas possible. Alors effectivement, on a créé un espèce de monstre urbanistique maintenant dans les grandes métropoles. C'est les seuls qui peuvent acheter dans le centre-ville sont ceux qui veulent être tranquilles, et ceux qui veulent être faire la tour centre-ville ne peuvent plus y être. Donc là, effectivement, mais là, on rentre dans quelque chose qui dépasse presque la politique municipale. C'est la politique du logement en France, c'est la politique de la ville de la fête. Comment est-ce qu'on s'en sort? Je ne sais pas. Peut-être effectivement commencer par se dire que quand on a une ville notamment étudiante, bah oui, il y aura des gens dehors, il y aura des gens dans la rue par période peut-être. Sanctuariser quelques quartiers dont on sait qu'historiquement il y a plusieurs bistrots et de se dire que c'est pas forcément la peine d'avoir une politique zélée en termes de contrôle. Oui, il y aura du monde dehors, ça va déborder un petit peu, la terrasse va déborder un petit peu. Qu'il y ait un petit peu de souplesse peut-être dans l'application de certaines lois. Que oui, un soir, il y aura un peu de décibels qui va déborder. Oui, d'accord. Mais c'est aussi ça la vie, parce qu'une ville qui ne bouge plus, qui ne vit plus, qui ne fait plus la fête, qui n'a plus de musique, ça va être terrible à vivre. Ça va être terrible à vivre, et peut-être que ça arrive plus vite qu'on imagine. Mais...
on espère que ce ne sera pas le cas.
Voilà, mais c'est effectivement, je pense que la politique de la ville est hyper importante là-dessus.
Je souhaite en tout cas que le Marquis de Sade puisse encore nous proposer de belles soirées. Alors 12 ans, je ne sais pas si tu continueras 12 ans.
Voilà, on verra avec mon médecin, ça.
Mais j'espère que ce sera le cas. L'exposition Notes de comptoir ici au Jardin Moderne, elle est à voir donc pendant 10 mois et demi, comme ça jusqu'au 19 septembre. Merci Sarah de nous en avoir présenté quelques-unes de ces photos.
Merci à vous.
Merci Seb et bon concert très bientôt avec Cafioul ou pendant Culture Barbare.
Oui, c'est ça, exactement.
Merci bien, on poursuit en musique avec une section de ta part Clément, ça c'est une programmation Culture Barbare il me semble.
Tu as parlé de Rouge-Gorge tout à l'heure Seb, eh bien on va le retrouver, Rouge-Gorge en fait. Du côté du Marquis de Sade, ça sera dans le cadre du festival Culture Barbare le 28 novembre et ce sera juste après Sinzis. Peut-être un mot sur Sinzis, c'est comme ça qu'on le prononce ce groupe?
Tu me jettes sous le bus là, je sais pas. Il tourne avec Rouge-Gorge, il m'a dit je viens avec lui, j'ai dit bon d'accord, voilà.
Gage de qualité.
Voilà, c'était un lot.
Eh bien, on écoute donc Rouge-Gorge, les primes verts défaussés, pardon, et on se retrouve juste avec My Little Cabbage, juste après la pause.
Et que nous étions des singes, comme dans les documents.
Alors évidemment, il y a quelques morceaux d'artistes rennais comme ça qui restent en mémoire longtemps. Je pense que c'est Prime Vert des Fossés de notre ami Robin Poligné, Rouge-Gorge. Ça sera un classique dans 20 ans, mais c'est déjà un classique finalement. Vous le retrouverez le 28 novembre au Marquis de Sade, rue de Paris, pendant le festival Culture Barbare. Un festival où je ne crois pas que vous jouerez, nos invités prochains, Jeanne et Eric de My Little Cabbage, mais si.
C'est pas... si tu le dis.
C'est pas prévu. Bon, en tout cas, on va vous retrouver dans quelques secondes. My Little Cabbage joue de la musique acadienne, de la musique cajun, de la musique cadienne, même a-t-on dit il y a longtemps. On va voir si vous reconnaissez le morceau qui sert à ouvrir cette séquence avant qu'on vous retrouve en mini live tout à l'heure à la fin de cette émission spéciale. Un peu de rock and roll comme ça qui arrive dans ce morceau de Shorty Leblanc. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui.
Non, je vous ai vu, vous l'avez reconnu tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on écoutait ça, Eric, Jeanne ?
C'est une bonne question. C'était une époque un peu particulière, les années 50, 60. Et en fait, ils se cherchaient un petit peu en Louisiane. Ils étaient très influencés par toutes les musiques américaines. L'exemple.
Et aussi peut-être à cause du titre du morceau.
Oui, complètement, complètement. Oui, parce que en fait, ça s'appelle My Little Cabbage, c'est le nom de notre trio, voilà.
Et je sais pas forcément le dire, hein, mais bon.
Un petit peu quand même, un petit peu. Non, mais en fait, ce qui nous a plu dans ce nom, c'est que. Je m'entends parler, c'est terrible.
Dans un casque, c'est à peu près normal, Jeanne. Hein,
c'est une première finalement. Fois, je suis désolée.
Okay,
désolé.
C'est pas grave, c'est un peu déstabilisant, mais ça ne dure pas très longtemps.
Non, non, alors My Little Cabbage, en fait, ce qui nous a plu, c'est vraiment que c'est un témoin de cette culture de la Louisiane, en fait.
Ce mélange de plein d'influences.
C'est ça, en fait, mon petit chou, ça veut dire mon petit chou en anglais, et en fait, ça ne veut rien dire. My Little Cabbage en anglais, mais mon petit chou c'était utilisé en français. Voilà. Donc du coup, voilà, ça nous a plu.
Une époque reculée, et ça n'empêche que vous êtes un groupe qui jouait aujourd'hui en 2025 de la musique. Alors, est-ce qu'on dit que c'est de la musique actuelle finalement, la musique que joue My Little Cabbage ?
Tout à fait, ouais. C'est de la musique qu'on peut. Si vous allez en Louisiane, c'est de la musique que vous pouvez entendre un peu partout, dans plein d'endroits, dans les bars justement, comme vous en avez beaucoup parlé tout à l'heure.
On entend dans la musique de My Little Cabbage, là c'était pas vous qui jouiez à l'instant, c'était Shorty Leblanc, mais on va vous entendre tout à l'heure, il y a du mélodéon, il y a du banjo parfois peut-être, là il n'y en aura pas, de la contrebasse, de la guitare, c'est quoi la formule habituelle de My Little Cabbage ?
Alors la formule habituelle, donc, c'est un trio, mélodéon, chant, violon, et donc Mathieu Guiton qui a la guitare, qui fait le triangle et qui de temps en temps prend le violon, voilà. Et donc pour aujourd'hui, on sera accompagné par Eric et Isabelle Martin. Donc on a cette chance là parce que c'est quand même des connaisseurs, connaisseuses de la musique cajun en Bretagne. Et voilà, ils nous ont fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Donc ce trio sera étoffé d'une contrebasse aujourd'hui, ouais.
Alors. Évidemment, on peut se dire que cette association entre Notes de comptoir, l'exposition hein, de Sarah qu'on voit sur les murs du Jardin Moderne, et puis un concert de My Little Cabbage, ça tombe sous le sens, évidemment. Je vous vois très bien prendre place là, tiens, dans la grande salle du O'Donnell's à Port-Salle, dans le Finistère, et faire plaisir à des gens qui ont plus l'habitude d'entendre la musique irlandaise, mais qu'importe. Elle revient de très loin, la musique que vous jouez aujourd'hui. Comment vous y incorporer des éléments plus contemporains. Est-ce que vous le faites, d'ailleurs ?
Jeanne, tu veux y aller ? Non.
Je peux y aller. Bah, en fait, justement, quand on va en Louisiane aujourd'hui, y a pas mal d'influences très, très modernes, finalement. C'est assez rare de voir des duos ou des trios old style, justement. On va pas mal voir de basse-batterie, de guitare électrique, tout ça. Et voilà, moi en tout cas, ce qui m'a amené à la musique cajun, c'est les vieux enregistrements que j'ai découverts avec Eric notamment. Et c'est cette musique-là qui me plaisait, donc c'est un peu un retour aux sources finalement. Je ne sais pas comment toi tu vois, Eric, ça, mais...
C'est-à-dire que la musique cajun est beaucoup évolué au fil des temps. Il faut savoir que, bon, historiquement, elle est quand même venue
de France.
Mais après, elle s'est mélangée avec les différentes immigrations qu'il y a eu donc, aux États-Unis, en Louisiane notamment. Donc, en fait, il y a eu la présence beaucoup d'Irlandais, d'Anglais, d'anglophones, on va dire.
Vous dire que les Acadiens, à l'origine, étaient d'origine française, mais ils se sont installés au Canada, puis ont été expulsés, on va dire, en Louisiane.
Tout à fait, oui. Ils ont été, bah, pas que en Louisiane, ils ont été beaucoup survenus en France, notamment. Mais bon, de ces Acadiens, beaucoup, après, ont réussi à aller s'installer en Louisiane, qui était territoire, enfin, plus francophone à cette époque-là, qui était territoire espagnol. Mais ils sont venus s'installer, effectivement, là-bas, et donc ils ont amené leur part de culture, et ils l'ont mélangé, métissé avec en fait toutes les populations qui étaient là-bas à l'époque.
L'œil non averti, et il y en a, hein, finalement, il y en a, pourrait confondre l'instrument qui est joué avec un accordéon. C'est quoi la différence entre un mélodéon et un accordéon ?
C'est pareil. Le mélodéon est un accordéon, peut-être.
L'inverse est.
Dans tous les sens. C'est-à-dire que le mélodéon est un petit peu l'ancêtre de tous les diatoniques. Des accordéons.
Attention.
Ouais. C'est un petit peu l'ancêtre puisqu'il n'y a qu'une seule rangée en fait, et juste au niveau de l'accompagnement, deux boutons qui font les basses et les accords. Donc c'est un petit peu l'ancêtre de tous les accordéons qu'on a maintenant. Et en fait, ils ont développé un répertoire en Louisiane, mais aussi au Québec et dans d'autres parties du monde sur cet instrument.
On va vous retrouver pour quelques morceaux ici en live and direct, puisque vous accompagnez ce vernissage d'exposition Notes de comptoir. Ce que vous allez nous jouer doit uniquement à votre invention. Est-ce qu'il y a des petits repiquages de morceaux traditionnels ou pas du tout ?
Oui, complètement. Enfin, c'est des morceaux traditionnels, ouais. Donc on va vous jouer un two-step. Voilà, la Cassine Special et une valse. Il faut savoir qu'en Louisiane, en musique de danse, vous allez en rencontrer trois types. Donc, il y a les two-step, les valses et les blues. Voilà.
Et j'imagine évidemment que ce sera encore mieux accompagné par des danseurs et des danseuses. Ce ne sera peut-être pas forcément le cas ici, mais vous donnez quelques leçons de pas de danse qui accompagnent vos morceaux ou pas du tout ?
Bien sûr, si. C'est possible. Une initiation est tout à fait concevable. Voilà.
Bon, on va voir si.
Si on veut remuer juste des épaules, ça marche aussi.
Remuer des épaules, si vous n'avez pas de bijoux, ça me rappelle quelque chose. On va retrouver Jeanne, Eric et puis les deux camarades. Pour un petit live de My Little Cabbage. Alors, un petit live, une dizaine, douzaine de minutes. Je vous en prie, rejoignez la scène si vous voulez bien. Vous avez rendez-vous à la fin de cette session live avec peut-être quelques pistes pour l'avenir, sans doute. Vous avez l'occasion, je le rappelle une dernière fois, de voir l'exposition Notes de comptoir jusqu'au 19 décembre ici au Jardin Moderne à Rennes. Et puis ensuite, elle se baladera de salle de concert en micro-lieu, en lieu de résidence, enfin tous les lieux de Notes de comptoir. Je pense que My Little Cabbage, les petits choux, sont prêts à jouer maintenant. Faites-moi signe et allez-y directement.
Les promesses que tu m'as fait, tu connais le mérite passant. Tu m'as dit mais hier au soir, ouais tu veux plus me voir. Astor, mon je connais que toi tu es tout pas bon.
Merci. Et sans plus attendre, une valse.
ramasser des écopos, ébouillir des écrevis. Oh, hier, on allait chez Mania pour couper des Cherokees et manger du canardin.
Merci beaucoup.
Merci.
My Little Cabbage, que vous pourrez retrouver dans le cadre de l'expo Notes de comptoir, le vernissage en tout cas ce soir à partir de 19h30 si vous en voulez un petit peu plus, le set en entier au Jardin Moderne donc.
Et merci à toutes et tous d'avoir été avec nous sur Canal B et Radio Boa. Merci à la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, pour son travail, Xavier Bérangère. Merci aussi à nos partenaires éditoriaux Super Mab, Julien et Amélie de cette structure, au collectif Culture Barbare avec Liane, mais aussi merci au JIP Café Culture qui était avec nous pour l'interview en première partie d'émission. Et puis finalement, merci pour l'accueil aussi au Jardin Moderne et pour la diffusion de cette exposition que vous pourrez apprécier jusqu'au 19 décembre prochain avant de l'avoir tournée dans d'autres bistrots et d'autres lieux culturels en Bretagne.
Et merci à nos partenaires financiers, sans qui bien cette expo et cette série n'aura pas pu voir le jour. Le CNM, la Région Bretagne et la DRAC Bretagne. Merci aux collègues de Canal B du jour, Yann et Nina à l'animation. Et Pierre-Maël et Naya à la technique. N'hésitez pas à visiter, si vous souhaitez découvrir toute cette série de podcasts, le site de la Corlab avec tous les épisodes et Radio Boa pour découvrir donc l'essentiel, enfin tous les épisodes. Merci beaucoup et à bientôt. Thank you.